Amis des ondes, bonjour, bienvenue sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne dans l'émission mensuelle du Grémos. Je vous rappelle que le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, donc une association loi 1901 qui regroupe des universitaires, sociologues, historiens, géographes et des personnes intéressées par ces thématiques qui ne sont pas forcément dans le cadre universitaire. Donc c'est la rentrée du Grémos aujourd'hui, ici Alban. Aujourd'hui, nous allons nous inscrire dans une thématique brûlante, on pourrait dire, puisqu'il va être question de la question des immigrations et de l'immigration en général, donc à Saint-Étienne, avec différents intervenants aujourd'hui que je vais vous présenter et qui vont surtout se présenter eux-mêmes et qui vont donc décrire les activités et les événements à venir, les mois à venir sur Saint-Étienne dans ce cadre des questions migratoires. Donc, tout de suite la parole à Laurence, Céline, ça y est, j'ai oublié, Soutif, excusez-moi, donc des archives municipales.
Oui, donc je me présente, oui. Donc je suis Céline Soutif, je suis responsable des actions culturelles aux archives municipales de Saint-Étienne et je suis chargée de coordonner un projet qui s'appelle Saint-Étienne Cosmopolitaine qui va démarrer ce samedi avec les journées du patrimoine.
Voilà, très bien, donc on va y revenir dans quelques instants. À côté de vous, Céline Jeannot-Pietrois, donc
bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter aussi.
Alors, donc Céline Jeannot-Pietrois, je suis maître de conférence à l'Université Jean Monnet et au sein du laboratoire CELEC, le Centre d'études sur les littératures étrangères et comparées.
Merci. Donc vous allez intervenir en relation avec Céline Soutif dans le cadre de l'exposition et nous parler de projets plus particulièrement portés par le CELEC.
Oui, tout à fait. Un projet qui s'appelle Saint-Étienne Ville Plurilingue et qui a été coordonné par ma collègue Marielle Rispaille et moi-même.
Très bien, merci. Également présent aujourd'hui, Laurence Geoffrin et Maggie Yassou. Donc je vais vous demander de vous présenter aussi.
Bonjour, Laurence Geoffrin. Donc je suis professeure de FLS français langue seconde et français de scolarisation. C'est le français qui est enseigné comme une langue vivante aux élèves qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas le français.
Voilà. Merci.
Oui, bonjour, je suis Maggie Brisé-Yassou. J'enseigne depuis une quinzaine d'années auprès d'élèves dialophones, c'est-à-dire qui n'ont pas le français comme langue maternelle.
Merci. Donc vous interviendrez toutes les deux, notamment en relation avec l'exposition et le vernissage de l'exposition d'une vie à l'autre, d'une langue à l'autre. On y reviendra un peu plus tard dans la troisième partie de cette émission. Donc, pour commencer aujourd'hui, nous allons donner la parole à Céline Soutif notamment, dans le cadre de l'exposition et de l'événement de l'année Saint-Étienne Cosmopolitaine en relation avec l'immigration et les immigrés sur Saint-Étienne qui s'inscrivent donc dans une grande tradition dans le bassin stéphanois. Hein. Le Grémos a déjà eu l'occasion de revenir par le passé dans certaines de ses émissions sur les thématiques des questions migratoires et des immigrés plus largement dans le bassin stéphanois. S'ouvre donc à partir de ce week-end du 19 septembre 2015 une grande exposition Saint-Étienne cosmopolitaine organisée notamment par les archives municipales de Saint-Étienne et aussi le service ville d'art et d'histoire de la ville de Saint-Étienne qui est un copilote du projet. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, notamment sa genèse et on reviendra aussi sur les événements à venir.
Oui, je reviendrai aussi un peu sur l'esprit, la manière dont ce projet s'est construit. Donc, effectivement, cette semaine commence l'exposition, mais c'est aussi le point de départ d'une programmation culturelle qui va durer toute l'année et qui est coordonnée, comme vous le disiez, par les archives municipales et le service Ville d'art et d'histoire de la ville de Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne Cosmopolitaine avec le sous-titre d'émigration dans la ville, c'est vraiment un projet global, pas seulement une exposition, mais aussi des temps de rencontres, de débats, de réflexions autour de ces thématiques d'émigration dans la ville et qui ont pour vocation de se construire collectivement avec les différents partenaires qui sont associés au projet.
Est-ce que vous pourriez peut-être citer quelques-uns de ces partenaires, notamment ?
Oui, alors, il y en a pas mal. Donc, je vais commencer peut-être par les premiers. Et ça me permettra de raconter un petit peu l'histoire de ce projet et comment est né ce projet, puisque c'est un peu particulier pour les archives municipales dans la manière de travailler par rapport à ce qu'on a pu faire avant dans la construction des expositions. Il se trouve que c'est un sujet qui a émergé à partir de sollicitations de plusieurs groupes de recherche qu'on a rencontrés à partir de l'année dernière, puisque c'est un projet qui a commencé il y a 18 mois à peu près. On a été sollicité d'abord par un laboratoire de recherche de l'université Jean Monnet qui s'appelle le CELEC, donc qui est représenté là aujourd'hui par Céline Janot, qui travaillait sur la diversité des langues parlées dans la ville. Et à peu près au même moment, on était aussi sollicité par d'autres groupes qui travaillaient chacun dans des disciplines différentes, des sciences humaines, sciences sociales, mais qui avaient pour point commun dans leur sujet d'aborder cette question plus ou moins de l'héritage des migrations dans la ville et de la manière dont ça s'exprime aujourd'hui à Saint-Étienne. Donc on avait rencontré aussi une association qui s'appelle Carton Plein et qui travaillait plus sur l'axe des commerces et de comment ça peut refléter aussi la diversité culturelle du territoire. On avait commencé aussi à échanger avec Catherine Gauthier qui se lançait dans socio-anthropologue qui se lançait dans un projet autour des cafés, de la place des cafés de quartier dans l'accueil, les solidarités avec des personnes en situation de migration notamment. Et puis un petit peu plus tard, on a rencontré une autre équipe de recherche qui est représentée donc par le CIREC, qui est aussi un laboratoire de l'université Jean Monnet, et puis le CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, qui eux se lançaient donc à la fin de l'année 2015 dans un projet qui s'appelle « Comment sonne la ville ?» autour des musiques migrantes pratiquées à Saint-Étienne. Donc, ça fait beaucoup de partenaires avec des intérêts communs et on s'est dit c'est vraiment sans doute le bon moment pour aborder cette question-là avec plein d'autres gens. Il y a sans doute là un terreau fertile à Saint-Étienne pour questionner les migrations dans la ville, en s'interrogeant sur le contexte d'aujourd'hui et en essayant, nous, avec notre place archive, revenir dans l'histoire de la ville pour essayer de comprendre le contexte d'aujourd'hui. Voilà comment est né le projet Saint-Étienne Cosmopolitaine. Donc quand je parle d'un projet collectif, c'est vraiment...
Un vrai projet collectif, oui. Donc il ne doit pas être facile non plus à coordonner, à manier, à faire qu'il y ait une dynamique commune, où vous laissez justement la marge de manœuvre un petit peu à tous les autres partenaires.
Alors, c'est la particularité aussi de ce projet, c'est que on n'a pas voulu remplacer chaque projet, disons, a sa vie propre, avec des temps de restitution qui sont prévus avec des formes différentes. Pour le CELEC, ça s'est fait au mois de juin dernier avec une exposition, avec une programmation autour de l'exposition à l'université. Pour Catherine Gauthier, ça sera un film qui sortira d'ici à la fin de l'année. Voilà, donc chaque projet a sa vie, mais Saint-Étienne Cosmopolitaine se veut aussi un espace un peu fédérateur qui présente aussi au grand public la manière dont, qui cherche à donner à voir un peu les coulisses de la recherche scientifique sur le territoire, à les rendre accessibles aussi au grand public, ce qui n'est pas forcément... évident pour le grand public, mais voilà, en tout cas on ne cherche pas à remplacer chaque projet mais à leur donner une autre visibilité à travers notamment l'exposition et aussi un petit peu plus tard la programmation.
Est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur justement cette exposition avant de laisser la parole à Céline Janot qui nous parlera justement du partenariat avec Saint-Étienne Cosmopolitaine via son laboratoire de recherche au CELEC. Quelques mots sur cette exposition, comment elle a été pensée peut-être, et puis justement quelle place vous donnez à l'histoire dans celle-ci.
Alors, l'exposition, elle est évidemment à l'image de la manière dont on a travaillé. Donc, elle cherche à écrire un récit de la ville à plusieurs voix, comme un peu la façon dont on a travaillé ensemble autour de ces questions. Donc il y a on dit souvent que c'est un récit à trois voix, avec la voix des archives, donc comment est-ce que les documents d'archives, qui sont un peu la source matérielle de la connaissance de l'histoire de la ville, que nous racontent les documents sur l'histoire du peuplement de Saint-Étienne. Donc là, on revient assez largement sur l'histoire industrielle de la ville, qui est très liée à l'histoire du peuplement, en cinq grands chapitres qui cherchent à donner des grands repères sur le peuplement de Saint-Étienne. Il y a aussi toute une partie qui va être, qui est consacrée à la voie de la recherche des chercheurs. Donc, comment est-ce que les chercheurs qui s'appuient le recueil de parcours de vie d'habitants vont questionner les formes d'expression de la diversité culturelle dans la ville. Voilà. Et puis la troisième partie du récit est consacrée plutôt à des démarches citoyennes, à savoir des projets qui ont pu être mis en place dans les quartiers depuis le début des années 2000 par des établissements scolaires, des centres sociaux, des artistes, etc., qui travaillent aussi sur cette question des mémoires des migrations. Et l'idée, c'était de pouvoir aussi leur donner une visibilité dans l'exposition, et donc d'entamer pour nous un travail de documentation de projet pour pouvoir en conserver ensuite des traces dans les archives et pouvoir leur donner aussi une autre visibilité.
Très bien, donc ça va nous permettre justement de faire le lien avec les travaux du CELEC. Donc Céline Jeannot, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vous aussi de votre côté la genèse de vos recherches sur ces thématiques-là, la façon dont vous avez été amenée à travailler en relation avec Saint-Étienne Cosmopolitaine par exemple ?
Côté au CELEC, c'est un projet Saint-Étienne ville plurilingue qui a été lancé il y a un petit peu plus de 3 ans, et c'est vrai qu'on a construit la réflexion au fur et à mesure au sein du groupe de recherche, et le partenariat qui s'est développé avec les archives municipales nous a donné une nouvelle dimension à notre projet, à la fois au niveau de la diffusion des résultats bien sûr, et puis aussi avec le un travail en symbiose avec d'autres groupes de recherche où nous sommes réunis au sein de l'université aussi pour voir ce qu'on faisait un petit peu chacun de notre côté. Vous savez, dans les laboratoires, souvent, chacun travaille dans son coin. Et donc là, on a essayé de construire quelque chose d'un peu plus global. Voilà. Donc le partenariat avec les archives, en fait, a été constructif dans le sens où ils ont déjà beaucoup suivi nos travaux pour voir la progression. Et puis, ils ont également été un soutien pour nous en termes de documentation, bien sûr, puisqu'on a des étudiants qui travaillent sur les parcours de migrants, sur la question linguistique, évidemment, qui sont allés faire des recherches dans leurs locaux, voilà.
Oui, parce que vous pourriez peut-être préciser que le CELEC est plus spécialement orienté vers les questions linguistiques, notamment.
Bien sûr, bien sûr. Alors, au CELEC, nous sommes un groupe de chercheurs au sein du CELEC en sciences du langage, et plus particulièrement spécialisé dans la sociolinguistique et la didactique des langues. Donc là, Saint-Étienne ville plurilingue, il s'agissait clairement d'un projet sociolinguistique, et le projet regrouper, lancer une dynamique, en tout cas, auprès d'un collectif qui ne sont pas seulement des chercheurs, il y a des chercheurs du laboratoire, bien sûr, il y a aussi les étudiants qui sont impliqués, les étudiants en master français langue étrangère. On a un certain nombre d'associatifs aussi, très intéressés par cette question, qui sont venus participer activement à notre groupe, et également des enseignantes auprès d'élèves allophones, c'est-à-dire auprès d'élèves qui parlent d'autres langues que le français.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de travaux existants dans d'autres centres de recherche en France, ou est-ce qu'il y a une forme d'originalité par rapport à votre démarche sur Saint-Étienne ? Et partant, est-ce qu'on pourrait dire que Saint-Étienne a une singularité un peu dans le paysage ? Là, c'est la grande question. Mais...
C'est une grande question, effectivement. Il existe d'autres recherches propres. Alors, je pense notamment à une recherche qui a été menée à Grenoble sur la vie plurilingue à Grenoble par Jacqueline Billiez. Il y a eu des recherches également dans ce sens en Picardie qui ont été menées sur la diversité linguistique. Alors, ce qui fait peut-être la spécificité de notre recherche, c'est c'est un petit peu l'approche historique, la mise en perspective historique qu'on essaye de donner aux enquêtes, aux entretiens qui ont été menés, pour essayer de voir quelles sont les spécificités migratoires de la ville, mais aussi les spécificités au niveau des langues régionales qui donnent une coloration particulière à ce plurilinguisme local.
Est-ce que vous pourriez préciser concernant ces langues régionales, justement ?
Bien sûr. Alors, je dis langue, mais en fait, c'est pas le meilleur terme qu'on pourrait utiliser. On parle souvent de langue et variété régionale. Alors, je pense bien évidemment aux langues régionales, je pense au franco-provençal, qu'on appelle aussi arpitan, qui était la langue qui était parlée avant le français dans la ville de Saint-Étienne. Il y a l'occitan, tout proche, qui est parlé au-delà des monts du Forêt et dans le Pilat. Et puis de ces langues régionales a découlé en fait une variété régionale du français que les Stéphanois connaissent bien et qu'on appelle le gaga.
Le gaga.
Là, il s'agit du français coloré qui a un héritage en fait des langues régionales. Voilà.
Et justement, par rapport à cet héritage, à ces traditions, est-ce que vous pensez que la caractéristique socio-professionnelle historique du bassin stéphanois, cette marque industrielle, peut jouer ou influencer grandement ce travail autour des langues, justement?
Bien sûr, évidemment. Alors, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment la diversité des langues présentes dans la ville, cette diversité, quel écho elle avait chez les individus, comment les individus arrivent à construire leur identité à travers ces différentes langues et ces différentes cultures. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des entretiens qui se rapprochaient des histoires de vie, qu'on appelle des biographies langagières. Et on voit donc à travers le parcours de ces personnes qui habitent, qui vivent à Saint-Étienne, eh bien, toute une histoire liée bien sûr à l'industrie locale, liée au monde ouvrier. Et je pense évidemment aux mineurs qui sont venus travailler, à tous les gens qui sont venus travailler dans la métallurgie. Et on voit ressortir dans les langues des traces de ces métiers et de cette histoire. Dans le gaga, évidemment, il y a des marques, des traces de l'industrie locale. J'ai une collègue d'ailleurs qui avait le projet de travailler sur un dictionnaire du français de la mine, donc avec des termes vraiment locaux qui étaient utilisés dans la mine. Oui.
Merci. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser autour de la table aussi. Vous pouvez poser des questions. Sinon, peut-être qu'on pourra embrayer après sur une première pause musicale. Mais si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas.
Thank you.
Qui sont les adolescents étrangers scolarisés en France? De quel pays viennent-ils? Quelle langue, au pluriel, parlent-ils? Comment sont-ils arrivés dans l'agglomération stéphanoise? Pour quelles raisons et dans quelles conditions? Appelés élèves allophones nouvellement arrivants, parce qu'à leur arrivée, ils parlent une ou plusieurs langues autres que le français. Ils ont entre 11 et 16 ans et sont pour la plupart scolarisés depuis moins d'un an dans un établissement du second degré. Donc, c'est ce que nous allons aborder maintenant dans cette deuxième partie de l'émission avec Laurent Geoffrin et Maggie Yassou qui vont nous présenter notamment l'exposition qui va qui est mise en place et dont le vernissage aura lieu ce vendredi 18 septembre à 18h30. Donc l'exposition qui s'appelle « D'une vie à l'autre, d'une langue à l'autre ». Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce projet, quel est ce projet, sa genèse, etc. aussi?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, compléter notre présentation en précisant que Maggie Yassou et moi-même sommes enseignantes dans des collèges de la ville de Saint-Étienne, que vos auditeurs, qui sont familiers probablement à l'oreille de vos auditeurs, je citerai par exemple les collèges Gambetta, le collège Claude Fauriel à côté de la préfecture, le collège Jean d'Asté tout près d'ici, le collège Honoré d'Urfé bien entendu. Voilà, autant de collèges dans lesquels, par exemple, nous intervenons et nous accueillons des élèves donc allophones, qu'on appelle aujourd'hui allophones, qu'on a pu appeler par le passé primo-arrivants, peut-être que ça dira quelque chose à vos auditeurs, ou ENAF, un temps on les a appelés élèves nouvellement arrivés en France. Enfin voilà, autant de dénominations renvoie à des adolescents qui arrivent en France, en général de l'étranger, mais ça peut être aussi de Mayotte. Et là, ils sont français, mais ils parlent leur langue maternelle n'est pas forcément le français. Voilà. Donc, nous vous proposons, à travers une exposition qui aura lieu au pied des marches, dans un local qui est convivial qui s'appelle le réfectoire, de faire connaissance avec quelques-uns de ces adolescents à travers des extraits de recueils, de récits autobiographiques qui ont été écrits et illustrés, parce que le dessin est important, dans ces différents collèges stéphanois au cours de ces quelques 5 dernières années. Donc si vous venez visiter notre exposition, vous le verrez et vous l'entendrez. Dans ces récits graphiques, sont représentées les langues maternelles de ces élèves et leurs alphabets. Voilà, et nous les avons invités à dessiner les images qui leur venaient à l'esprit en évoquant leur départ, la façon dont ils sont arrivés en France, hein, c'est ce qu'on appelle leur parcours migratoire, et leur arrivée à Saint-Étienne. Donc ce projet, ça aboutit à des recueils que nous avons colligés, rassemblés, qui sont à destination des familles et puis à destination aussi des lecteurs stéphanois. Voilà. Et nous les avons exposés. Voilà.
Il serait peut-être justement intéressant que vous nous fassiez profiter un petit peu de ces recueils. Est-ce que vous pourriez nous en lire un extrait, par exemple?
Bien volontiers, bien volontiers. Je vous propose la lecture d'un texte d'une élève qui vient de Mongolie intérieure. Vous voyez, c'est pas tout près d'ici, qui s'appelle Mongzaya. En Mongolie, je vivais avec ma famille, ma mère, mon père, mon frère et ma sœur, qui sont plus petits. Je restais à la maison. C'est ma mère qui était mon professeur. Je n'allais pas à l'école parce que c'était trop loin. J'apprenais l'anglais. On ne parlait pas le chinois dans cette région de Mongolie intérieure. Nous avions des vaches et des chevaux. Mes parents nous ont dit qu'on allait partir tous les 5-6 mois plus tard pour aller en France. Nous sommes partis en camion avec ma famille. Il faisait froid et il ne fallait pas faire de bruit. Le voyage a duré 20 jours. Puis le chauffeur du camion s'est arrêté à Saint-Étienne. Au début, nous sommes restés dans un garage pendant 3 mois. Nous buvions l'eau des fontaines et nous allions manger dans une association vers la place Fourneyron. Il s'agit de l'association Renaître. Après, nous avons trouvé un appartement. L'immeuble a 3 étages avec 3 familles par étage. Je précise qu'il s'agit d'un CADA, d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je vis dans le même immeuble qu'Assiat, une autre élève du cours. Parfois, elle vient chez moi pour parler, et moi, je vais chez elle pour parler.
Merci. À la lecture, en fait, on se rend compte que vous essayez d'amener les élèves à parler d'eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ce processus d'apprentissage et de réflexion ?
Bien volontiers. Je vous dirais qu'enseigner une langue, ça n'est pas simplement apprendre des mots, du vocabulaire, du lexique, l'ordre des mots. Apprendre une langue, ça revêt une dimension psychologique, culturelle. Et pour justement donner un sens à cet apprentissage, hein, une des nombreuses activités possibles, c'était de proposer aux élèves de nous raconter comment ils étaient venus en France, de nous parler de leur pays, de nous parler de leur regard, du regard qu'ils posent sur la réalité stéphanoise en particulier, française en général. Voilà, et donc c'était un petit peu ça l'esprit du projet. Et la finalité ultime de notre projet aussi, ça s'inscrit dans la finalité de l'école républicaine, c'est que en remettant des événements qui sont parfois discontinus, qui ont été parfois un peu bousculés parce qu'un adolescent n'a pas forcément choisi de partir, de quitter son pays, ses amis, il n'a pas forcément adhéré au projet migratoire de ses parents, eh bien c'était de donner du sens et de contribuer à l'émergence d'un sentiment d'appartenance à la ville, puisque c'est une ville qui a une très forte identité, et de l'inscrire aussi dans un projet citoyen.
Merci. Est-ce que pratiquement, vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement, ce travail avec les élèves, où vous les accueillez, dans quel cadre, dans quelle structure, est-ce que c'est pendant les temps de classe ou c'est à côté, etc.
Donc ces élèves sont accueillis en cours de français, spécifiquement de français langue étrangère ou seconde, et de scolarisation, c'est-à-dire pour faire le lien le plus vite possible avec la réalité de la scolarisation, être capable de suivre un cours de géographie, un cours d'histoire. Donc des élèves grands débutants ont, en fait il y a une circulaire qui donne le cadre. Malheureusement, la circulaire n'est pas tout à fait appliquée. Je vous donne un exemple. La circulaire prévoit 12 heures de cours pour des élèves grands débutants. Et sur Saint-Étienne, ils ont en moyenne 8 heures par semaine, ce qui est peu en moyenne, hein, donc certains en moins, ce qui est peu pour entrer rapidement dans une langue. Et on sait combien il est difficile déjà de changer de pays, hein, tous ces passages ne sont pas simples. Et en fait, ce travail que Laurence vous a expliqué s'inscrit dans une pédagogie particulière, à savoir la pédagogie de projet qui rend les élèves acteurs de leur apprentissage. Il a déjà été dit qu'ils subissent, qu'ils ont subi l'exil, et ce n'est pas simple. Et là, en fait, à travers ces écrits, ils peuvent se dire, se raconter, se poser et puis être lus, puisque c'est aussi le but. Et être lu, c'est être reconnu. Et je crois que ces enfants ont vraiment besoin de reconnaissance. Et reconnaissance en deux mots. Ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce qui a été dit avant sur les liens entre les archives et municipales et le SELEC avec Céline Janot, c'est que donc en fait il y a des liens très ténus entre l'université et les collèges sont un lieu où des étudiants sont accueillis aussi pour venir faire des stages d'observation et des stages en situation. On les accueille volontiers et l'université nous le rend bien puisque nous avons été conviés à participer entre autres à une RAF, hein, c'est-à-dire une recherche action formation qui s'intitule l'arc-en-ciel des langues, je ne me trompe pas Céline, et on voit bien le lien aussi avec Saint-Étienne cosmopolitaine. Au mois de juin, il y a eu la Vogue des langues sur laquelle peut-être on va revenir dans le détail. Je ne sais pas si c'est le moment de...
On pourra peut-être en reparler, oui.
Voilà. Oui.
Justement, qui sont les intervenants avec ces jeunes enfants, ces jeunes adolescents? Et peut-être une deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu écho de travaux similaires dans le passé, justement? Parce que en tant qu'historien, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir peut-être comment, par le passé, ces immigrants étaient accueillis sur Saint-Étienne, qui les prenait en charge ou pas. Est-ce que vous auriez aussi peut-être à terme l'ambition de voir un petit peu dans le passé les différentes pratiques qu'il y a pu y avoir sur cette thématique?
Alors, votre question soulève plusieurs questions, donc je vais essayer de les traiter l'une après l'autre. Alors, d'une part, la prise en charge de ces élèves migrants par le passé, auparavant, alors ça a débuté dans les années 70, hein, avec ce qu'on appelle le rapprochement familial des ouvriers immigrés. Et lorsque immigration s'est pérennisée, l'école a rencontré la nécessité de prendre en charge ces élèves qui devaient apprendre le français, enfin qui parlaient d'autres langues, et a créé des classes qu'on appelait classes d'accueil, dans lesquelles les élèves étaient regroupés et distincts, si vous voulez, des autres cours, des autres élèves. Et on s'est aperçu, notamment à l'occasion d'un rapport de l'historien Jacques Berck, que vous connaissez pas. Enfin, un historien très, très connu, un historien du monde arabe, et qui a pointé le fait qu'on pouvait arriver à des classes ghetto, si vous voulez. Et donc, à l'heure actuelle, il s'agit plutôt de dispositifs ouverts dans lesquels les élèves sont pris en charge pendant un temps pour apprendre le français, donc c'est ce que nous faisons, ma collègue et moi-même, et ils sont inclus dans les autres matières pour accélérer leur intégration dans le système scolaire.
Et tout ceci, ça se passe en établissement
ou à
l'extérieur?
Non. Tout cela est organisé au sein de l'éducation nationale. Et nous-mêmes, vous voyez, nous sommes mis... je suis professeure de français et ma collègue est professeure d'anglais à la base, et nous sommes mis à disposition de ces dispositifs. La République prend en charge... l'intégration veut à vocation. Après, la mise en œuvre est peut-être sujette à discussion, mais les principes sont posés. Et juste pour terminer l'autre question, il existe effectivement un précédent dans l'écriture autobiographique proposée à des élèves allophones, et un très beau livre qui s'appelle « Le voyage a été long », publié aux éditions FLBL, et dont nous nous inspirons très modestement. C'est une collègue dans une autre région qui a publié ces textes. Les notes ne sont pas publiées parce que nous voulions que ça reste dans un cadre amateur et libre, mais pourquoi pas. Alors, je pense qu'on reviendra peut-être après sur les modalités de l'exposition.
Oui, plus concrètement. Vous vouliez intervenir, Maggie Yassou?
Oui, je voulais juste préciser que malheureusement, il n'y a pas de dispositif national. Et ça, c'est quand même un problème. D'une académie à l'autre, la prise en charge des élèves n'est pas la même. Les dispositifs sont ouverts, semi-fermés, fermés. Donc, moi, je trouve que ça pose problème. Et avec l'arrivée des migrants, l'actualité est brûlante, on peut se poser des questions sur ce qui va se passer.
Vous vouliez peut-être aussi nous lire un extrait d'un document où...
Avec plaisir.
Et après, nous reviendrons sur les relations avec Saint-Étienne Cosmopolitaine.
Donc, en fait, il s'agissait d'un projet plus modeste. Les élèves étaient invités à évoquer un souvenir plus ou moins heureux de leur passé, à la manière de Georges Perec. Je me souviens que mon grand-père m'a appris à être patient à la pêche. Je me souviens d'une bagarre à l'arrêt d'un bus en Russie. Je suis arménien. Ils n'aimaient pas les étrangers, ils m'ont frappé. J'ai dit à ma mère que j'étais tombée. Je me souviens du jour où j'ai voyagé dans une locomotive en Arménie et où j'ai mis du charbon dans la chaudière. Il faisait très chaud et le train allait très vite. C'était super. C'est un garçon qui s'appelle Artyom et qui suivait des cours il y a une petite éternité, il y a 10 ans.
Merci. Votre intervention et la lecture de ce texte me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez, ce serait pour Céline Soutif, est-ce que vous avez intégré justement cette dimension de la xénophobie ou du racisme qui peut exister et qui existe en France dans l'exposition, notamment sur Saint-Étienne ?
C'est des questions qui sont intégrées dans le parcours historique, à savoir comment est-ce qu'à différentes périodes, selon les troubles qui marquaient différentes périodes de l'histoire de la ville et de l'histoire de France, comment est-ce qu'on accueillait plus ou moins bien les étrangers, mais c'est pas une question qui est traitée dans un chapitre entier de l'exposition, par exemple.
Merci. Voilà. Quand vous parlez de chapitres, vous parlez c'est des périodes ou c'est vraiment des chapitres thématiques ?
C'est des grandes périodes.
C'est des grandes périodisations.
Voilà, on a choisi d'aborder l'histoire du peuplement de Saint-Étienne dont je parlais tout à l'heure de manière chronologique. Donc en fait, on va suivre une frise chronologique qu'on a mis en lien avec donc des informations sur le peuplement de la ville, sur la démographie de Saint-Étienne. Et avec ces informations sont croisés des grands focus thématiques qui permettent d'aller plus loin sur un sujet ou un autre. Après, c'est vraiment... L'idée, c'était de ne pas faire une grande exposition historique complètement...
Exhaustive.
Qui soit exhaustive, mais plutôt de donner aux Stéphanois des grands repères. Voilà, donc... c'est une exposition, c'est pas un livre d'histoire. donc on se veut aussi synthétique dans l'approche. Après, l'idée c'est aussi que l'exposition soit un point de départ, mais il y a aussi des temps de médiation qui sont prévus avec des visites guidées, etc. Donc qui permettent aussi d'aller plus loin et d'être plus dans l'échange autour de ces questions et de pouvoir aborder de manière plus ou moins détaillée un sujet ou un autre.
Voilà. Et dans ce cadre-là, justement, quelles pourraient être les relations justement tissées avec les travaux dont on vient de parler à l'instant ? Dans quelle mesure vous les incorporez ? Parce que là, on se rend compte qu'il y a d'un côté l'histoire globale, on va dire de masse, entre guillemets, et de l'autre côté, on a les histoires individuelles. Mm-hmm. Donc comment vous arrivez à faire ce lien entre une histoire très globale avec des grands flux migratoires assez caractéristiques en fonction des périodes. On sait tous que les Italiens, les frontaliers français sont venus en premier en France, puis après, plus ça allait, on avançait dans le temps, plus les immigrants venaient de loin. Donc comment vous arrivez à faire ce lien justement de distance, en même temps individu, collectif ?
Alors, ça me permet de préciser que donc, le texte qui a été lu par Laurence, qui est un extrait de une des publications qui a été faite, vont être présentés dans l'exposition, dans le cadre du répertoire de projets que j'évoquais très très rapidement tout à l'heure, sous la forme d'une bibliothèque des projets dans lesquels on va pouvoir plonger pour découvrir des initiatives citoyennes qui ont été menées à Saint-Étienne pour valoriser l'histoire des migrations, les mémoires des habitants qui sont venus de près ou de loin à Saint-Étienne. C'est d'ailleurs, Laurence, je pense, une des premières personnes qui nous a interpellées quand on a lancé cet appel à participation en disant « on est à la recherche de projets qui auraient pu être menés dans différents quartiers de la ville par des collectifs d'habitants, des structures sociales, des enseignants, etc. Et qu'on voudrait rendre visible comme partie de l'histoire de la ville, mais racontée par les habitants. » Et Laurence avait interpellé lors d'une conférence de Pierre-Rosan Vallon, le directeur des archives, en disant « Moi, je veux participer. J'ai rassemblé des récits d'adolescents depuis plusieurs années. » Voilà, donc on est en contact depuis... assez longtemps et donc le projet d'une vie à l'autre est présenté dans l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine. Après, sur les récits individuels, il faut savoir ça, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais il est prévu dans l'exposition un espace, une installation sonore interactive avec donc des montages, donc des petites créations sonores qui ont été réalisées à partir de témoignages d'habitants qui ont été recueillis par les différents groupes de recherche que j'ai présentés tout à l'heure, donc autour des pratiques linguistiques, des pratiques musicales, des commerces, des cafés. Donc c'est une entrée, il y a une entrée vraiment sonore à partir de récits de vie d'habitants qui nous permet ensuite d'entrer dans les projets de recherche. Voilà, donc ils sont présents et ils font partie de ces différentes voies du récit dont je parlais tout à l'heure.
Merci. On fait une nouvelle petite porte et respiration sonore, justement. On ouvre une nouvelle porte musicale. Tout à l'heure, on a écouté les mélodies de chansons folkloriques traditionnelles avec le quatuor Spiro. Et là, nous allons, précisément pour faire transition, revenir sur un travail d'atelier d'écriture qui a été réalisé du côté du département voisin du Rhône, puisque ce sont des ateliers d'expression qui ont été organisés avec des enfants, des adultes, des adolescents n'ayant pas le français pour langue maternelle, pour bon nombre d'entre eux. Et ce sont des ateliers travaillés, organisés par le réseau Éducation sans frontières Rhône, sous le parrainage d'une chanteuse, auteur-compositeur, Sophie Gentils, si vous connaissez cette artiste. C'est un projet qui a été parrainé par des artistes reconnus tels Anne Sylvestre, Michel Bernard ou Maggie Marin, et tout simplement ces personnes qui sont sans papier, privées de voix pour l'essentiel, eh bien le silence a été brisé via ce projet, puisque les chants sans papier est un groupe de 26 personnes, enfants et adultes, donc avec ou sans papier, qui chantent ses propres mots sur scène. Vivre urgent, c'est le titre de ce projet et de ce CD que je vous propose de retrouver via un extrait. C'est une chanson traditionnelle qui nous vient du Kosovo.
Me orde o jete me kalue o a po vieni me mue
a po vieni me mue.
De retour dans l'émission du Grémos, dans la dernière ligne droite. Nous allons représenter rapidement les expositions à venir et les événements. Avant de laisser la parole à nos invités, je vous annonce que donc le Grémos organise une journée d'études le 13 novembre 2015 à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, avec comme thématique de l'usine à la cité, immigration et engagement depuis les années 70, donc dans le bassin stéphanois, mais pas uniquement. Nous vous en avions déjà parlé lors de la dernière émission courant juin. Le programme se précise, les intervenants sont presque tous calés. Nous tâcherons de vous en dire un peu plus le mois prochain, en octobre, pour la prochaine émission du Grémos, et vous annoncer concrètement la programmation prévue. Mais vous pouvez déjà caler cette date du vendredi 13 novembre 2011 à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Mais vous pourrez avoir des renseignements plus précis sur le site du Grémos, www.grémos.lautrenet.com. Donc nous allons revenir sur les différents événements à venir, notamment donc sur cette exposition d'une vie à l'autre. Est-ce que vous pouvez aussi préciser peut-être le lieu exact et où ça se trouve, dans quel quartier de Saint-Étienne?
Voilà, alors cette exposition a lieu au réfectoire, donc c'est un local convivial, une salle dans laquelle vous pouvez apporter votre repas tiré du sac et le réchauffer, voilà, et prendre votre repas en compagnie d'autres personnes présentes, et qui est situé à l'angle de la rue Robert et de la rue Roger Salingros, au pied des marches, comme son nom l'indique, juste au-dessous du grand escalier des marches du Cré de Roc, dans le quartier du Cré de Roc. Donc vendredi 18 septembre, c'est-à-dire demain à 18h30, vous êtes cordialement invité au vernissage, qui aura la particularité d'être accompagné d'une dégustation de saveurs du monde. Donc n'hésitez pas vous-même à nous faire découvrir et à partager vos talents culinaires et interculturels. Et je précise simplement que donc ce qui est fait à l'intérieur de la classe, hein, dans des collèges, ces récits de vie ont pour particularité de pouvoir être proposés à d'autres, de sortir de la classe précisément et proposer à un public, parce que c'est à la fois pédagogique et à la fois ça s'adresse à des spectateurs qui peuvent être intéressés par des récits de vie et par les dessins, puisque les dessins ont été accompagnés par deux professionnels qui sont Jacques Prudhomme et Michel Jacquet, qui sont auteurs de bandes dessinées aux éditions Jargille, éditions stéphanoises. Donc voilà, le dessin aussi a une place. Et je voudrais simplement rajouter également que, comme je vous ai dit tout à l'heure, apprendre une langue, ça n'est pas simplement apprendre des mots et une succession de mots. Eh bien, enseigner, ça n'est pas non plus simplement transmettre un savoir, c'est accompagner des élèves dans leur découverte et leur appropriation de la langue et de leur nouvel environnement scolaire. Et quand ces élèves-là, eh bien, sont, par exemple, ont demandé les familles ont demandé l'asile, et qui ont été déboutés du droit d'asile, c'est aussi faire face à des moments de déchirement nous sommes parfois bouleversés en tant qu'enseignants. Et donc certains enseignants du collège Jean d'Asté en particulier se sont regroupés en association, et cette association s'appelle No Partiran, pour venir en aide précisément à ces familles déboutées du droit d'asile qui sont sans solution. Donc demain au vernissage, ces collègues seront là et voilà, nous pourrons l'association pourra être là. Et je voulais remercier également donc Céline Soutif et Céline Jeannot de porter intérêt aux travaux d'enseignants du second degré et à travers nous de rendre audible et visible la parole de ces élèves.
Merci. Donc nous invitons à venir demain au vernissage de cette exposition, donc d'une vie à l'autre, d'une langue à l'autre. Elle va durer jusqu'à quand cette exposition ?
Jusqu'au 22 octobre.
Jusqu'au 22 octobre, oui.
D'une vie à l'autre, d'une langue à l'autre, je me permets juste de rajouter cette petite chose très importante, hein, puisque les textes ont été... alors je ne sais pas dans quel sens toi tu es parti, hein, est-ce que tu es parti du français et ils ont été amenés à traduire dans leur langue ou vice versa, c'est ce que j'avais fait une année, bon, chaque élève était libre de... mais l'important c'est de maintenir le lien avec la langue maternelle, hein, parce que c'est une des idées reçues sur lesquelles on se bat, ce n'est pas parce qu'ils parlent arabe, tchétchène ou lingala à la maison qu'ils ne seront pas aptes à apprendre rapidement une autre langue. La langue, c'est un trésor à cultiver. La langue, c'est le cordon ombilical, pas seulement qui relie à la mère, mais ça relie aux histoires familiales, ça relie à l'histoire d'un peuple, à la culture, à tout ce qui fait la vie de quelqu'un.
Merci. Donc pour terminer, on va revenir plus spécifiquement sur les journées du patrimoine de samedi et dimanche à venir, donc dans le cadre de Saint-Étienne Cosmopolitaine. Et puis si on a le temps, on pourra peut-être aussi dire les autres projets à venir dans le cadre de Saint-Étienne Cosmopolitaine. Donc je laisse la parole à Céline Soutif qui va bien mieux que moi raconter tout cela.
Donc pour les journées du patrimoine, pour nous, c'est l'occasion donc de proposer un week-end de lancement de l'exposition. Avant l'inauguration officielle qui aura lieu mercredi 23 septembre à 18h30. Donc samedi et dimanche, nous sommes ouverts de manière un peu exceptionnelle, puisque d'habitude, nous ne sommes pas ouverts le week-end et nous proposons plein d'activités autour de l'exposition. Déjà, il faut savoir que des médiateurs seront présents tout l'après-midi dans l'exposition pour répondre aux questions des visiteurs, présenter l'exposition, etc. On proposera également des visites des coulisses des archives pour découvrir à la fois les fonds que nous conservons de manière un peu classique puisque c'est les journées du patrimoine, mais pour comprendre aussi comment est-ce que les habitants peuvent contribuer à l'enrichissement de ces fonds, et notamment à travers des documents qui concernent les migrations dans la ville.
On proposera des ateliers créatifs le samedi après-midi et le dimanche après-midi, donc en continu avec des artistes intervenants autour du fond photographique, d'un fond des fonds de portraits photographiques qu'on conserve dans les archives et à partir desquels on a créé dans l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine un cosmotrombinoscope, donc qui est un portrait collectif qui mêle des visages de différentes générations. Et donc, on invite toutes les personnes qui le souhaitent à venir participer à ces ateliers. On aura aussi samedi après-midi une lecture musicale de la compagnie Cœur d'Arenco avec des textes de François Chanal. Et dimanche après-midi, une émission de Radio Audio enregistrée en public autour du projet Comment sonne la ville sur les musiques migrantes à Saint-Étienne. Donc l'occasion aussi de rencontrer des témoins qui ont contribué à l'exposition et qu'on pourra ensuite retrouver dans l'expo à travers leur témoignage. Je vous invite à venir nombreux. Ce n'est que le début d'une programmation qui va donc se déployer toute l'année avec tous les partenaires qui souhaitent aussi contribuer à cette programmation culturelle. Il faut savoir que si vous souhaitez organiser des événements en lien avec Saint-Étienne Cosmopolitaine, je suis à votre disposition pour en discuter, ainsi que Sandrine Sanquer, du service Ville d'Art et d'Histoire, avec qui nous coordonnons ce projet. Et un des premiers événements de cette programmation, au mois de novembre, c'est donc la journée... les troisièmes rencontres d'histoire ouvrière du Grémos qui ont été construites en lien avec les thématiques de l'exposition. Là, je vous laisse.
Exactement. Pour les auditeurs, je vous invite dans tous les cas à aller sur le site des archives municipales de Saint-Étienne, hein, archives.saint-étienne.fr, où vous aurez tous les renseignements concernant cette exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine et cet événement qui va durer donc sur toute l'année. Concernant la journée d'études du Grémos le 13 novembre, il y aura donc des interventions le matin. Ce sera axé plus généralement sur les luttes des immigrés, l'engagement des immigrés dans les usines du bassin stéphanois, mais pas seulement. Nous avons tenu à inviter d'autres personnes pour qu'on ait un peu un autre son de cloche. Et nous aurons donc une intervention notamment sur les travailleurs immigrés des usines Renault et Citroën à Paris, donc par un doctorant de l'université de Paris, Créteil-Marne-la-Vallée. Il y aura aussi des interventions sur des luttes ouvrières d'immigrés sur Saint-Étienne dans les années 70. Et l'après-midi, par contre, nous allons sortir de l'usine pour aller dans la ville et rencontrer l'espace urbain et les formes d'engagement des immigrés dans l'espace urbain stéphanois. Je rappelle aussi que la veille, le 12 novembre, il y aura à l'Institut du Travail une conférence qui va être donnée sur ces questions-là aussi. Nous vous en dirons plus lors de la prochaine émission du Grémos. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, aller sur le site du Grémos pour retrouver toutes ces informations. Je pense que nous avons à peu près terminé.
Oui, quasiment. Juste pour compléter en termes d'agenda, Alban, si tu le permets, simplement en lien à nouveau avec Saint-Étienne Cosmopolitaine, mais je crois que même Céline pourrait ajouter l'information et la compléter. C'est avec, tu parlais de ce trombinoscope, c'est une opération qui avait été activée à l'occasion de la Biennale internationale du design, en lien avec notamment le carton plein, l'association et la cartonnerie, avec le beau, ce bureau éphémère d'activation urbaine implantée dans le quartier Jacquard. Simplement, donner aussi l'actualité de Carton Plein associé à ce projet Saint-Étienne Cosmopolitaine via notamment le projet Saint-Étienne Itinéraire Croisé. Je ne me trompe pas, Céline ?
C'est ça.
C'est bien cela. Un projet au long cours autour de l'identité de ville et de la diversité culturelle. Après Beau Jacquard, c'est Beau Brun, un quartier très marqué aussi par l'immigration, bien sûr. Et Carton Plein intervient ce week-end à l'occasion d'abord de la fête de quartier de Beaubrun avec Fiesta de rue à Beaubrun. L'équipe Carton Plein a fait tout un travail d'immersion dans le quartier et une opération quartier sur écoute est mise en place et sera donc proposée, si je ne me trompe, tout le week-end ou en tout cas surtout ce samedi 19 septembre sur le quartier Beaubrun. Voilà, c'était simplement pour faire aussi la transition avec cette actualité-là. Si tu veux la compléter, Céline, n'hésite pas.
Je crois que tu as tout dit.
J'ai tout dit. Voilà pour Carton. faire temps plein, et puis je voulais compléter encore, puisqu'on parle de Beaubrun, peut-être des musiques et musiciens maghrébins en Rhône-Alpes, et le CMTRA qui va être invité également ce week-end, notamment sur le plateau radiophonique Dimanche, qui est le centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, a réalisé tout un travail bien sûr de collectage, on aura l'occasion encore d'en reparler, autour des musiques migrantes dans la région Rhône-Alpes, et précisément la radio dispose d'une compilation qui avait été réalisée il y a maintenant de nombreuses années, une sorte d'atlas sonore autour des musiques du Maghreb à Lyon, Saint-Fons, Villeurbanne, Vénissieux, Grenoble et Saint-Étienne. Et je voulais simplement profiter de l'occasion pour d'abord diffuser un extrait, ce sera pour clôturer cette émission, et rappeler un hommage rendu au Rossignol Kabyle qu'est Alaoua Zerouki et l'association Numidia qui travaille sur la culture berbère et qui la présente ici même sur cette antenne, propose un événement en hommage à cet artiste. C'est ce samedi 19 septembre à partir de 20h30 à la salle du NEC, le nouvel espace culturel de Saint-Priest-en-Jarret, avec lecture des textes de Zerouki Alaoua en français par Suzanne Vongeon et Édouard Piollet, et Ferhat Meni, Kamel Amadi qui devraient également être présents. Un hommage qui va aussi se faire sous forme de musique avec la chorale Tiliwa, Malik Belili et Aklidé en l'occurrence. Voilà, c'est ce samedi 19 septembre. Je voulais juste compléter encore l'agenda avec ces toutes dernières propositions.
Merci Lionel, en tout cas, d'avoir précisé. J'avais oublié de citer et de parler de carton plein. Donc, la première émission de la saison du Grémo se termine. Donc, une émission un petit peu originale par rapport à celle que vous avez l'habitude d'écouter, dans la mesure où nous avons fait beaucoup moins d'histoire aujourd'hui et beaucoup plus de présent, d'actualité. Et il ne faut surtout pas oublier donc, que Saint-Étienne est pluriel, et qu'elle l'est depuis de très 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 longues années, et qu'elle s'est construite dans cette diversité. Le Grémos continuera bien sûr à décrypter cette singularité stéphanoise, mais pas uniquement. Donc nous vous remercions, je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui nous parler, qui ont bien voulu présenter leurs travaux, leurs projets, et on se dit donc à bientôt sur les ondes de Radio Dio, et bien sûr dans les différents lieux de manifestation. Merci.
On termine avec cet instrumental Chaoui. C'est un artiste qui vit à Saint-Chamond, artiste originaire de la Chaoua en Algérie, avec deux danses kabyles jouées sur la cornemuse Guida Tilout, Rabia S. Donc ça nous provient de Saint-Chamond, c'est un travail réalisé donc par le Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, issu de cette compilation Musiciens du Maghreb à Lyon.